Vous écoutez France Culture.
Sur le bateau d'Ulysse, aujourd'hui, la sophistique, l'autre héritage grec, avec Barbara Cassin. Même si le règne de la marchandise, de la communication, du spectacle nous éloigne des Grecs, certains repères n'ont pas disparu, pas d'histoire de la philosophie sans les noms de Platon, d'Aristote, mais que reste-t-il, par exemple, des sceptiques qui avaient tant intéressé Montaigne, Pascal, Nietzsche, que reste-t-il des stoïciens, des atomistes de l'Antiquité? Qui aujourd'hui s'occupe de ces vieilles écoles pour les sonder et pour y trouver une ressource, une actualité? J'accueille Barbara Cassin, philosophe, philologue, spécialiste de la Grèce ancienne, auteur entre autres de « La décision du sens », le livre Gamma de la métaphysique d'Aristote, voire Hélène en toute femme d'Homère à Lacan. Google-moi la deuxième mission de l'Amérique. Et vous êtes aussi à l'initiative, Barbara Cassin, du vocabulaire européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles. Et vous avez co-dirigé le numéro 43 de la revue Le genre humain, vérité, réconciliation, réparation. Alors vous avez osé réactiver un courant de pensée plutôt mal accepté par la tradition philosophique, la sophistique qui a imposé des noms comme Gorgias, Protagoras. Pourquoi et par qui la sophistique a-t-elle été aussi maltraitée par la philosophie ?
Par toute la philosophie. Elle a été maltraitée par toute la philosophie depuis Platon et Aristote. Platon a fait que la sophistique soit de la démagogie et de la mauvaise rhétorique, de la basse politique et une manière de gagner de l'argent. Ce que peut-être elle est aussi. Et Aristote a fait que les sophistes aient un discours de plante, c'est-à-dire ne soient même pas des hommes. Parce qu'il profite des équivoques du langage et de l'homonymie. Et donc il les a exclus. Exclus du bon logos. Et puis à partir de là, on trouve des définitions courantes du genre dans le Lalande, qui est un très bon dictionnaire de philosophie, le vocabulaire technique et critique de Lalande, qui est toujours réédité, on trouve qu'il s'agit d'une philosophie de raisonnement verbal sans solidité et sans sérieux. Voilà la définition de la sophistique. On peut se demander ce que ça veut dire, raisonnement verbal. C'est peut-être très bien. Et donc je me suis demandé ce que ça voulait dire et quel usage de la parole, quel usage du discours, comment les sophistes comprenaient le logos.
Et c'est pourquoi vous donnez toute cette importance au livre Gamma de la métaphysique d'Aristote, puisqu'il définit les bases même du logos.
Oui, le livre Gamma de la métaphysique, c'est le livre qui réfléchit sur le principe de non-contradiction et qui réfléchit sur la manière de l'établir. Le principe de non-contradiction, c'est ce qui fait qu'on parle comme on parle. Aujourd'hui, si je parle de manière compréhensible, c'est que je le veuille ou non, je suis aristotélicienne. J'obéis au principe. Et ce principe, Aristote se demande comment le démontrer, puisqu'il y a des gens qui apparemment le refusent. Et parmi ces gens, les atomistes, justement, Héraclite, Protagoras et les sophistes. Tous ceux qui parlent, dira Aristote, « legein logou carine », pour le plaisir de parler.
Alors pourquoi est-ce que Hegel appelait les sophistes les anciens maîtres de la Grèce? Ils n'étaient donc pas aussi marginalisés que ça, les sophistes?
Non, avant d'être marginalisés par la philosophie, ils occupaient le terrain, tout le terrain grec, sur deux domaines qui sont inclus dans le terme « maître ». Le premier, c'est le domaine de la culture. Les sophistes étaient les éducateurs de la Grèce. C'est eux qui ont donné à la Grèce sa paideia, c'est-à-dire sa manière d'être grec. Et puis, ils étaient aussi maîtres au sens politique du terme, c'est-à-dire que c'est eux qui, d'une part, étaient très souvent législateurs des cités, ils étaient itinérants et parfois, comme des étrangers, étaient meilleurs pour donner les lois d'une cité que les autochtones. Et ces itinérants législateurs enseignaient aussi comment avoir, garder quelque chose comme le pouvoir. Donc comment diriger. Ils réfléchissaient sur le politique.
Barbara Cassin, comment est-ce que vous vous êtes finalement retrouvée à contre-courant d'une pensée qu'on peut dire dominante, même si elle se heurte aussi à des violentes attaques, une pensée qui se réclame surtout de Heidegger? Je crois que vous aviez rencontré Heidegger.
Oui, j'ai été au séminaire du Thor, à l'un des séminaires du Thor, chez René Char, avec Heidegger, avec, entre autres, Jean Bouffray, François Fédier, enfin, et j'étais...
J'étais très jeune.
Oui, j'étais très jeune, j'étais l'élève, c'était juste après 68, et c'était faisable aussi à cause de ça. Et j'avais été l'élève en Hippocagne de Michel Deguy, qui est poète, mais qui était aussi prof de philo, et qui comprenait Heidegger, et qui nous en parlait, et puis aussi l'élève de Bouffray, à Sacagne de Condorcet, où on pouvait aller et venir.
Mais alors, est-ce que c'est la position de maître à penser de Heidegger qui, surtout, vous a fait prendre des distances par rapport à cette pensée ?
Non, non, c'est une position philosophique pour de bon. Maître à penser, ensuite, c'est une autre histoire. Je veux dire, comme maître à penser, moi, je crois qu'on en a besoin, simplement, on en a besoin de beaucoup. Il faut pas s'arrêter à un maître à penser. Moi, j'ai été très heureuse de rencontrer plusieurs maîtres à penser. Et en même temps, d'ailleurs, Heidegger et Char, qu'on pourrait dire tous deux, chacun dans leur domaine, maîtres à penser, maîtres à vivre. Bon. Et puis, plus tard, Jean Bollack, qui m'a appris beaucoup de choses sur ce que c'est qu'un texte, par exemple. Et Hans Wiesmann, de même. Mais non, moi, c'est sur le fond que Heidegger, avec un peu de recul, pas immédiatement, que je le trouvais écrasant dans un sens philosophique. Hein. Je trouvais qu'il réduisait tous les présocratiques à, au fond, Parménide. Et il réduisait Parménide à être, ou il réduisait, ou il magnifiait. Et au fond, c'est la même chose à mes yeux, réduire et magnifier. Il réduisait, magnifiait Parménide à être l'origine, la parole originaire. Et à être au fond la bouche qui énonçait le « il y a » de l'être. « Es gibt, esti ». Et le fait que, à peine une génération après Parménide, quelqu'un comme Gorgias ait pu écrire, donc 50 ans plus tard, ait pu écrire quelque chose comme le traité du non-être, face au poème qui s'appelait « Sur la nature ou sur les temps », Gorgias a écrit un traité qui s'est appelé « Sur le non-être ou sur le non-étant ou sur la nature ». Bon, le fait qu'il y ait eu cette réplique très violente, très catastrophique, catastrophant au sens grec du terme, c'est-à-dire mettant tout cul par-dessus tête, m'a vraiment passionné. Et c'est Pierre Aubin qui m'avait suggéré de travailler sur ce texte comme thèse de doctorat. Et donc j'ai travaillé là-dessus. Et la question de base, c'est peut-on être autrement présocratique, c'est-à-dire autrement que comme Heidegger imagine que tous les présocratiques, sans exception, sont.
Et faut-il remettre à sa place l'ontologie comme simplement une performance discursive voilà. Parmi d'autres ? C'est ça aussi le fond de la question.
C'est le fond de la question, c'est savoir ce qu'est le logos. Le logos que les Grecs, qui a une multiplicité de sens en grec et qui commence par vouloir dire quelque chose de l'ordre de la proportion, A sur B égale C sur D, c'est-à-dire la mise en rapport, hein, au sens mathématique aussi, mais qui veut dire, que les latins ont traduit par un doublet, ratio et oratio, c'est-à-dire raison et discours. Bon. Donc logos est immensément vaste comme sens. Et le logos grec, tel qu'il est mis en place par l'ontologie et par le poème de Parménide, lu par Heidegger en tout cas, avec le logos grec, il s'agit d'être, de dire fidèlement l'être, de dire fidèlement ce qui est là déjà. Autrement dit, il faut faire de l'ontologie au sens strict, c'est-à-dire dire l'être et être les bergers fidèles. Bon. Dans une nouure, dans un nœud absolument indémêlable entre être, penser et parler. Qu'instaurerait le poème de Parménide, qu'instaure le poème de Parménide. Si vous le lisez avec les yeux de Gorgias, si vous le lisez en appliquant la critique de l'ontologie qu'il est en train de se fabriquer, eh bien vous voyez que le poème de Parménide est justement un poème, c'est-à-dire qu'il est une performance, et que l'être, loin d'être ce qu'il y a à dire, ce qui est toujours déjà là, est en fait un effet de dire. Donc on inverse le sens de la flèche. C'est le poème de Parménide qui fabrique l'être. Et il le fabrique par une série d'opérations que le traité de Gorgias nous permet de remarquer. L'une de ces opérations, très forte, c'est la manière dont la langue, l'ontologie de la grammaire, si vous voulez, se développe toute seule dans le poème. De la manière dont, partant de esti, il est, il y a, est, c'est, le nom de la route unique, Parménide déploie toutes les formes grammaticales, l'infinitif, puis le participe, puis l'article, pour faire le participe substantivé auquel on arrive dans ce qu'il est convenu de traiter comme fragment 8, c'est-à-dire au beau milieu, enfin à la fin du poème concernant la vérité, hein, la partie de l'être, on arrive à l'étang. C'est-à-dire que, au fond, le récit du poème, c'est le passage entre « est » ou « de est » à l'étang Toon. Et l'étang est décrit comme une sphère avec les termes mêmes qui servent à dire Ulysse. Dans le poème d'Homère, lorsqu'il passe au large des sirènes, il est ligoté dans la limite de liens puissants. Il est identifié. Et il résiste à tout appel, mais en même temps, il est identité. Identique à soi-même, lui-même, restant dans le même, solidement planté là. Ulysse est attaché au mât, hein, et les rameurs ont les oreilles bouchées, de manière à ne pas se laisser happer par le chant des sirènes, et lui, Ulysse, écoute les sirènes qui lui disent « Ulysse, t'en vanté, honneur de l'Achaïe, etc. » Donc il écoute dire son identité. Eh bien, le poème de Parménide, à son moment culminant, fait, lu par Gorgias, de l'être le héros du poème, mais non pas quelque chose de toujours, déjà, là, que l'homme a en charge de dire fidèlement.
Alors, bien entendu, vous ne partagez pas la conviction d'Heidegger selon laquelle il n'y aurait que deux langues philosophiques, le grec et l'allemand.
C'est un peu compliqué. Je ne la partage pas au sens où je n'en veux pas. C'est-à-dire que ça n'est pas cette vérité-là qui m'intéresse. Énormément de magnifiques textes philosophiques ont été écrits en grec, de magnifiques textes philosophiques ont été écrits en allemand. Le grec et l'allemand sont des langues chargées de philosophie, les œuvres fabriquant les langues et les langues fabriquant les œuvres. Hein. Il est son organe et elle est le sien, dit Schleiermacher à propos d'un auteur dans son œuvre et de sa langue. Mais dire que le grec et l'allemand sont, et l'allemand encore plus grec que le grec, sont les langues de l'être, voilà une vérité dont je ne veux pas. C'est-à-dire que ce n'était pas celle-là qu'il nous faut. Et c'est pour ça que j'ai écrit le dictionnaire.
Ça nous mène directement à ce dictionnaire. Oui. C'est votre intérêt pour la sophistique, la philosophie du langage, la philologie, qui vous a entraîné dans une aventure d'une dizaine d'années, au cours de laquelle, avec 150 collaborateurs, vous avez mis en place, vous avez dessiné la carte des différences philosophiques européennes et ça a donné en effet le vocabulaire européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles. Alors ce sont donc, si je comprends bien, les problèmes posés par le passage d'une langue à une autre qui sont à l'origine de ce dictionnaire.
Absolument, c'est les symptômes de différence des langues. Et si vous parliez de Heidegger, Heidegger dit aussi que la traduction, c'est quelque chose de fondamental et de très important, où on rentre dans l'essence des langues. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'être justement non-heideggerien, parce que le grec et l'allemand n'étaient pas les seules langues à considérer, n'étaient pas les seules langues qui créaient des mondes. Au fond, j'ai immergé la performance sophistique, c'est-à-dire l'idée qu'on crée en parlant, qu'on fabrique, qu'il y a une pragmatique. Hein. Je l'ai immergé dans la différence des langues, à travers ces symptômes de différence des langues que sont les intraduisibles. Et c'est ça que nous avons travaillé. Et pour le dire vite, il y a aussi un autre ennemi. Hein. Le dictionnaire se construit comme un nid. Donc, nid nationalisme ontologique, à la Heidegger, génie des langues, hérité du romantisme allemand. Ni globish, ni tout à l'anglais, qui nous menace terriblement dans la mondialisation et dans un certain style d'Europe.
Et finalement, vous réfléchissez aussi sur la question de l'universel, de l'universalité des concepts qui sont entièrement liés à une singularité de linguistique.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une question posée par Tullio Gregori, qui est donc un Italien, un professeur italien remarquable, qui m'a fait comprendre ce que j'étais, ce que je voulais vraiment avec le dictionnaire. Il m'a dit, et vous entrez, c'est des concepts ou des mots ? Bien sûr, ce sont des mots, ce ne sont pas des concepts. Hein. Ce ne sont pas des universaux conceptuels, ce sont des universaux trempés dans les langues ou fabriqués en langue. Donc il s'agit vraiment de la différence et des singularités des langues, du genre, pourquoi « mind », ça n'est pas tout à fait « geist », ça n'est pas tout à fait « esprit ». Ou pourquoi « mimesis », quand on le traduit par « imitation », ne produit pas du tout les mêmes effets dans la philosophie que quand on le traduit par « représentation ». Voilà le genre de problème que nous nous sommes posés.
Tout à l'heure, vous aviez cité Schleiermacher qui disait aussi que même Dieu, qui est absolument universel, est éclairé et coloré par la langue.
C'est ça. Même le Dieu et l'être, le premier substantif et le premier verbe, sont éclairés et colorés par la langue. Mais la perspective, elle est tout à fait Humboldt. Hein. Comment la pluralité des langues produit une pluralité des mondes. Et comment ces mondes communiquent-ils entre eux ? Une phrase de Umberto Eco, à mon avis très décisive, c'est « La langue de l'Europe, c'est la traduction ».
Et le dictionnaire des intraduisibles, finalement, nous entretient dans un relativisme qui est le propre de la sophistique et qui vous amène à une conception performative de la langue.
Enfin, je dirais que c'est la conception performative de la langue qui m'amène plutôt au relativisme. Mmh. Mais le relativisme, en effet, c'est l'ennemi numéro un partout, depuis les encycliques pontificales jusqu'au dernier rapport sur le multilinguisme, dirigé par Amin Malouf, qui a beaucoup de vertus. Non seulement Amin Malouf a beaucoup de qualités, mais le rapport a beaucoup de vertus. Mais le relativisme est toujours désigné comme quelque chose dans quoi il ne faut pas tomber. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est déjà Platon qui
ah ben, évidemment, c'est Platon.
Notamment dans le Théétète, je crois.
Ah, mais Platon, dans le Théétète, a fait quelque chose de très bien. C'est-à-dire que par la bouche de Socrate, il a laissé parler Protagoras. Et Protagoras, là, a, à mon avis, exprimé l'une des manières les plus saines de penser le relativisme. Il faut passer de la bivalence vrai-faux. Donc, il y a un vrai et il y a un faux, et un seul. Un seul vrai, peut-être plein de faux, mais un seul vrai. Et cette vérité est universelle et la même pour tous. Bon. Eh bien, au lieu de ça, Protagoras propose quelque chose de l'ordre du comparatif, ce que j'appelle un comparatif dédié. Au lieu qu'il y ait un vrai, il y a une vérité universelle. Il y a un meilleur et des moins bons. Et il s'agit de faire passer l'autre, la cité, d'un état moins bon à un état meilleur. Et meilleur, non pas meilleur dans l'absolu, mais meilleur pour l'individu, meilleur pour la cité. Le modèle est vraiment celui de la médecine.
Et donc, ceci vous a amené à vous intéresser à cette commission vérité et réconciliation qui a été présidée par Mgr Despont Tutu en Afrique du Sud, pour, à partir d'une langue qui fait quelque chose, créer une nation et réconcilier tout le monde.
Oui, il m'a semblé, quels que soient les défauts et les problèmes qu'on voit aujourd'hui massifs de l'Afrique du Sud, pourtant... Enfin, il m'a semblé que ce moment était extraordinaire, le moment de la Commission Vérité et Réconciliation, qui a permis de quitter l'apartheid sans bain de sang. Il y a eu un dispositif absolument génial inventé par la Constitution, la nouvelle Constitution d'Afrique du Sud, qui a fabriqué le peuple arc-en-ciel. Et dans le rapport de la Commission, Desmond Tutu a des phrases qui pourraient être des phrases de Gorgias. Il dit par exemple, on pense d'habitude que la langue dit des choses. La commission, le langage dit des choses. La commission n'est pas de cet avis. La commission pense que le langage, discours et rhétorique, fait des choses. Où on retrouve Austin, hein, mais par le grand bout de la lorgnette, pas par le petit bout performatif illocutionnaire, mais par le grand bout. Hein. Comment est-ce que le langage opère ? Un langage qui opère, qui fait autant qu'il énonce. Et donc la commission pense que le langage fait des choses, il construit la réalité. Et en effet, la réalité du peuple arc-en-ciel s'est construite d'une part par un logos partagé entre victimes et perpetrators et bourreaux, et par une mise en séquence des récits qui a permis véritablement la constitution d'une nouvelle réalité.
C'est-à-dire qu'il faut peut-être revenir...
Et une réalité qui soigne, voilà. Hein, voilà. C'est très important. Oui. C'est-à-dire qu'on retrouve là quelque chose de l'ordre de la sophistique, le discours comme pharmacon, comme remède, et évidemment quelque chose de la moderne psychanalyse.
Il faut peut-être expliquer ce dispositif. C'est-à-dire qu'il y a l'assassin et la famille de la victime qui passent devant une commission et le crime qui est donc considérée comme politique et qui est horrible, est exposée. La famille, on ne lui demande pas de pardonner. Ce n'est pas obligatoire, je crois. Mais la commission, elle accorde l'amnistie à deux conditions, que l'infraction soit motivée politiquement et que le demandeur fasse une révélation complète du récit.
La motivation politique, c'est en fait politiquement lié. Ça veut dire que le même crime fait par quelqu'un qui aura reçu un ordre de la part de son parti et fait par quelqu'un qui ne s'autorise que de soi-même est ou non amnistiable. Ça pose des problèmes très graves. Ça pose le problème les mêmes problèmes qu'en Argentine, la loi de l'obéissance due. Mais ça signifie une chose. Ça signifie que personne n'est politique tout seul. Et qu'on n'est pas idiot en politique. Idiot au sens aristotélicien. La politique, c'est une affaire collective. Bon. Et par ailleurs, en effet, le grand réquisite pour que l'amnistie soit accordée, c'est qu'on fasse une full disclosure. C'est-à-dire que tout soit dit de l'acte. Et l'amnistie est accordée acte par acte, et non pas une amnistie de couverture, ni même une amnistie à une personne. Donc, c'était la manière de reconstituer le passé commun.
C'est la manière de soigner aussi le passé.
Oui, absolument. C'est « revealing is healing ». C'était les grandes banderoles de la commission, sous lesquelles on passait pour entrer dans les salles, qui par ailleurs était un théâtre cathartique, qui se baladait de ville en ville, et les émissions télévisées du dimanche soir reprenaient les moments les plus cruciaux des hearings, des auditions. Vous disiez, le pardon n'est pas nécessaire. Absolument. L'une des choses qui m'a le plus bouleversée dans cette commission, c'est la ligne de partage claire entre éthique et politique. Je me souviens d'une audition où la femme d'un avocat qui s'était fait exploser une boîte piégée au visage et qui donc est mort avec des morceaux de lui partout dans le garage. Et la femme a dit « Comment voulez-vous que je pardonne à cet assassin si cruel ?» en montrant l'auteur qui avait envoyé là et qui était là à côté d'elle. Et la commissaire lui a dit « Nous vous comprenons, nous partageons votre peine et votre désarroi, mais nous ne vous demandons pas de pardonner, mais nous, nous allons amnistier. »
Et donc, cette commission demande une véritable conversion, dites-vous, presque au sens grec.
Oui, il faut une transformation des États. C'est véritablement une conversion, pas seulement personnelle, c'est la conversion qui oblige une société, un ensemble de citoyens, à passer, un dispositif qui lui permet de passer d'un État moins bon à un État meilleur.
Et le titre même de cette commission, Vérité et réconciliation, donne à la vérité justement ce sens un peu relatif que vous avez évoqué tout à l'heure.
Et il ne s'agit en tout cas pas d'une vérité historique. Il s'agit, dit Desmond Tutu, d'avoir juste assez de vérité pour. Enough of the truth for. Assez de vérité pour. C'est assez formidable comme décision.
Parce qu'il s'agit, dites-vous, d'une vérité construite.
Oui.
Vous parlez aussi de vérité résultat.
C'est une vérité résultat, résultat des discours qui auront été tenus. On peut employer le terme de Lacan, une vérité fiction, avec un X, c'est-à-dire fixée.
Ce n'est pas une vérité ontologique.
Non, ce n'est pas de l'ordre du « il y a » du « toujours déjà ».
Dans le langage courant, donc être sophiste, c'est être menteur, manipulateur. On dit beaucoup ceci des politiques, par exemple. Mais finalement, le terme n'est pas nécessairement péjoratif.
D'abord, au début de la Grèce, le terme « sophistès » était l'équivalent de « sophos ». Les sept sages étaient des sophistes. C'est devenu péjoratif avec Platon, essentiellement, et avec Aristote.
Et donc, il était important de rendre justice à la sophistique, cet autre héritage grec lié à la rhétorique et à la naissance de la littérature. Par ailleurs, en bousculant les genres, les disciplines, vous avez trouvé la liberté de faire se croiser de façon inattendue, parfois audacieuse, l'antiquité et la modernité, comme lorsque vous regardez la Commission Vérité et Réconciliation avec des yeux politiquement grecs. Merci, Barbara Cassin. Je rappelle quelques titres, L'effet sophistique chez Gallimard, Google-moi la deuxième mission de l'Amérique chez Albin Michel, Vérité, réconciliation, réparation, c'est le titre du numéro 43 de la revue Le genre humain au seuil et Le vocabulaire européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles, dirigé par Barbara Cassin au seuil, associée au Robert. Sur le bateau d'Ulysse, une série proposée par Gérard Gromer, aujourd'hui, La sophistique, l'autre héritage grec, avec Barbara Cassin. Prise de son, Julien Doumac. Réalisation, Sylvie Migaud. Thank you.